8h30, l'actualité économique avec Léo Dumas.
Et c'est un premier semestre qui s'est achevé dans le vert pour le secteur auto en France. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de presque 2% sur les 6 premiers mois de l'année, en finissant même par un plus 11% sur un an au mois de juin. Et alors Margot Faudéré, le tableau nous montre un bond spectaculaire de l'électrique.
Oui, sur les 6 premiers mois de l'année, l'électrique représente plus de 28% de part de marché selon les chiffres de la PFA, avec plus de 240 000 nouvelles immatriculations. C'est quasiment 11 points de plus que l'année dernière à la même période. De son côté, l'hybride se maintient aux alentours de 50% de part de marché comme l'année dernière. Et mécaniquement, en face, le diesel et l'essence représentent désormais moins de 20% des ventes en France. Alors ce succès de l'électrique, il se voit aussi dans le top 10 des véhicules les plus populaires en France. On y retrouve plusieurs modèles qui sont des modèles 100% électriques, par exemple la Tesla Model Y, mais il y a aussi des modèles qui existent en plusieurs motorisations, par exemple la Citroën C3 4e génération, qui peut donc être choisie également avec un moteur électrique.
Merci Margot Faudéré. Dans l'actualité aussi, Jean Castex, qui n'est pas candidat, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas mon horizon, dit le patron de la SNCF sur France Inter, qui annonce plutôt quelques ajustements sur les programmes de train ce week-end, en raison des fortes chaleurs attendues à travers la France. Et sur l'élection, on a les dates qui sont tombées. Premier tour le 18 avril 2027, le second 15 jours plus tard, le dimanche 2 mai. On en sait plus aussi sur la cession des activités renouvelables d'EDF aux États-Unis et au Canada, au fonds KKR. La vente a été chiffrée ce matin par EDF, 4,2 milliards d'euros, de quoi notamment permettre le financement du programme de PR2 en France. Et puis aux États-Unis, la fin des restrictions de sécurité nationale pour Anthropic, le gouvernement américain lève ses contrôles d'exportation sur les IA Fable 5 et Mythos 5, les deux les plus puissantes de l'entreprise. Et en échange, selon l'administration, Anthropic s'est engagé à traiter les risques de sécurité et à travailler avec le gouvernement sur les normes et les sorties des futurs modèles.
Il est 8h33, l'actualité internationale à travers la presse avec Annalisa Capellini. Les relations entre les Américains et les pays du Golfe se tendent.
Oui, vous vous souvenez du projet Freedom, ce projet avec lequel les Américains avaient essayé de libérer le détroit d'Ormuz bloqué par les Iraniens, une opération durée 24 heures seulement avant d'être arrêté par Donald Trump. Eh bien, le Wall Street Journal a une explication, c'était à cause de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a refusé l'accès à ses bases et à son espace aérien aux avions américains. Donc, selon cette enquête du Wall Street Journal, ce choix de MBS envenime depuis les relations avec les États-Unis et avec Donald Trump qui menace l'Arabie Saoudite d'arrêter de lui fournir des intercepteurs de drones et des missiles. Alors nous en Europe, on n'est pas forcément dans une meilleure position face aux Américains. Là aussi, il est question d'armes, sauf que nous, on essaye plutôt d'utiliser nos capacités industrielles pour essayer d'apaiser les relations avec les Américains. C'est ce qu'on lit aujourd'hui à la une du Financial Times qui dévoile que les Allemands sont en train de faire pression sur les États-Unis pour produire davantage d'armes américaines sur le sol allemand. Ça serait une coproduction entre Washington et Berlin et ça donnerait peut-être à Donald Trump une raison de plus de maintenir son engagement dans la défense européenne.
Visite à surveiller aujourd'hui, celle de la première ministre japonaise Sanae Takaishi qui est en Inde.
Oui, c'est une visite qui va définir l'orientation des relations bilatérales pour la prochaine décennie. C'est l'avis de The Hindu, quotidien indien. L'Inde et le Japon vont recentrer tous leurs efforts sur l'Indo-Pacifique. Selon des sources citées par le journal, les Japonais considèrent que l'Inde est désormais un partenaire indispensable à la réalisation d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Évidemment, quand on dit libre et ouvert, c'est en clé anti-chinoise. Côté presse japonaise, en revanche, Japan News, qui est la version anglophone du Yomiuri Shimbun, se concentre plutôt sur les contrats, sur la partie purement économique. Oui, parce que Tokyo et New Delhi vont signer une initiative stratégique sur le biogaz. Il y aura 1000 nouvelles usines de biogaz en Inde et ça va évidemment ouvrir la voie aux constructeurs automobiles japonais pour fournir plus de 2 millions de véhicules aux Indiens. Évidemment, marché très important.
Merci Annalisa Capellini. La bourse. C'est une marque ouverture dans 25 minutes. Qu'est-ce qu'on attend ?
Stable en préouverture, le CAC 40 en attendant. Kevin Warsh, qui est attendu comme le Messi tout à l'heure à Sintra, au Portugal, où se tient tout au long de la SEM, le symposium organisé par la Banque Centrale Européenne. Les investisseurs essayeront d'avoir un petit peu plus de détails dans les propos de Kevin Warsh. Ça sera tout à l'heure en début d'après-midi, sachant qu'il avait un petit peu douché les esprits lors de sa réunion il y a quelques jours de cela, au point même que désormais le marché anticipe à plus de 65%. 10%, une hausse de taux dès le mois de septembre. Tout cela pèse très clairement sur certaines classes d'actifs, à commencer par l'or, hein. On en a longuement parlé ces dernières semaines. Encore ce matin, l'once d'or est sous les 4 000 $. Et puis alors, c'est toujours très compliqué pour le Bitcoin qui est sur ses plus bas de 2024, sous les 58 000 brièvement cette nuit. On est légèrement au-delà de ce seuil ce matin, mais toujours sous le cap symbolique des 60 000 $ pour le Bitcoin, qui cède désormais plus de 50% depuis l'automne dernier.
Je pense qu'on dit doucher les espoirs, mais se faire doucher les esprits, ça ne doit pas être désagréable. C'est une expression comme une autre. Dans un instant, le club de la bourse, Robin Rivaton, président Stonal, et Alain Pitou, senior advisor pour Alpha. On va débriefer tout ça. À tout de suite.
Good morning market, le club de la bourse.
8h38 sur BFM Business, le club de la bourse ce matin, c'est avec Robin Rivaton. Bonjour, président de Stonal et essayiste. À côté de vous, Alain Pitou, senior advisor chez AI for Alpha. C'est ça le nom correct. On y va, on commence avec l'inflation. Finalement, il n'y en a pas. 1,8% en juin. Alain Pitous, on s'est fait peur pour rien?
Exactement. Ça a été en fait... j'ai l'impression que c'est un peu le thème du premier semestre, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de mauvaises nouvelles. On peut les lister, mais c'était énorme. Qu'en fait, une liste considérable qui aurait dû affecter les marchés, l'inflation dans le tas. Et puis finalement, les marchés sont passés au travers de tout ça. Alors avec, bien sûr, quelques
hauts
et bas. Oui, bien sûr. Mais finalement, si on regarde le semestre et le trimestre en particulier, c'est un semestre extraordinaire. Et
plus 21 pour
le Nasdaq. Voilà. Oui. Et donc, puis finalement, des marchés qui se tiennent plutôt pas mal. Hein. Si on refait ça le semestre prochain, tout le monde sera content. Mais en tout cas, pour revenir à l'inflation, c'est quand même drivé par le pétrole, qui a quand même un effet d'entraînement sur tout le reste. Et le pétrole, de manière assez surprenante, revient pratiquement au niveau d'avant-guerre, alors qu'en fait, tout le monde va reconstituer ses stocks, donc ça devrait faire un effet de soutien
de forte demande
considérable pour le pétrole. En particulier, moi j'ai en tête, tout le monde va refaire ses stocks, mais l'Inde, c'est un nouvel acteur qui va refaire un stock stratégique, un peu comme les autres. Donc on va avoir un soutien sur le pétrole. Donc c'est paradoxal de voir que finalement on a effacé ça.
Mais finalement la Chine a consommé moins de pétrole. Donc ça a peut-être quand même joué beaucoup. C'est la Chine qui a fait le régulateur sur le marché en fait.
Ah bah c'est la Chine, 6 millions de barils jour en moins de la Chine.
Ça a fait du bien.
Avec, ça s'explique en 3/3, 2 millions qui sont grosso modo le passage du pétrole au charbon et à l'électricité, 2 millions qui sont l'arrêt du stockage chinois et 2 millions qui ont été puisés dans les réserves, des réserves que tout le monde voyait à un niveau et en fait qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on anticipait. Et donc ça a effectivement expliqué pourquoi le baril n'a jamais grosso modo à tutoyer les 110, peut-être 115, mais on est vraiment resté à des niveaux assez bas. Je rappelle juste qu'en 2012, on avait un baril à $115 en prix courant. Donc par rapport à aujourd'hui, ce serait un équivalent de $130-$135. Donc on a vécu on a fermé le détroit d'Ormuz et on a connu un baril relativement peu cher.
Mais ils vont continuer à faire ça ou c'est faire tampon?
Alors, deux choses là-dessus, c'est que sur les 6 millions, les 2 millions qui sont déplacés du pétrole vers l'électrique et le charbon, grosso modo, il y a 1 million. Le charbon, c'est les Chinois peuvent redémarrer ce qu'ils appellent le synthétique, la chimie à partir du charbon. C'est-à-dire qu'en fait, le précurseur d'un certain nombre de produits chimiques, c'est le pétrole, mais ça peut être aussi le charbon, parce qu'à la fin, c'est du carbone, donc c'est la même chaîne. Ça marche quand le pétrole est au-dessus de $100. Quand c'est en dessous de $100, grosso modo, vous allez plutôt prendre du pétrole que prendre du charbon. C'est pas
donc il pourrait revenir sur le marché là.
Donc là, il y a deux, ça va revenir. L'électrification, donc 1 million de barils, je pense que ça, c'est un mouvement qui est lancé et qui va perdurer. Le remontée des stocks, ça va se refaire. Et la reconstitution des stocks. Donc il y a 5 millions sur 6 qui vont quand même revenir dans la demande mondiale. Quoi.
Alors, attention, il y a aussi un événement. Alors il y a l'électrification, ça je pense que c'est un phénomène structurel. Tout le monde va essayer d'électrifier le plus possible l'usage. Donc ça, c'est. On va mettre ça.
On a eu des sacrés chiffres ce matin sur l'électrification en France.
C'est énorme. Hein. Oui, c'est le mondial, hein. Donc tout le monde fait ça, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire qu'est-ce que le marché anticipe avec un pétrole aussi bas. Et c'est quand même à se demander si le poids des dettes mondiales, des dettes publiques mondiales, finit pas par peser sur la croissance avec des anticipations sur le pétrole qui serait quand même de ce fait-là qui traduirait que le monde ne va pas forcément croître aussi vite qu'on
Donc une baisse de la demande.
Oui, tout à fait.
Robin.
Et c'est aussi un petit peu pour reboucler avec le sujet d'inflation du départ. Quand vous êtes une zone avec aussi peu de croissance que la zone euro, il n'y a pas de logique que vous ayez très forte inflation. On est une zone sans croissance et les moteurs de la croissance aujourd'hui sont éteints. C'est pour ça que sur ce plateau, je m'étais opposé à une remontée des taux d'intérêt directeurs trop brutale, parce que quel est l'intérêt dans une zone qui n'a pas de croissance d'avoir une politique monétaire extrêmement restrictive pour une inflation qui est supposée et dont les chiffres en fait nous montrent qu'elle est beaucoup moins forte qu'attendue. Et effectivement, je pense que on est sur un scénario aujourd'hui de croissance mondiale qui va être quand même moins vert que ce qu'on attendait, moins rose.
Étienne, sur la question de la hausse des taux d'intérêt, Christine Lagarde s'est justifiée à Cintra.
Oui.
Elle a dit clairement que c'était pas une hausse d'anticipation, qu'elle avait raison d'avoir fait cette hausse.
Et qu'il y avait des raisons. Bon, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Quand elle a remonté les taux, c'était juste avant l'accord du cessez-le-feu. Et même sur ce plateau, je pense que pas grand monde voyait le pétrole aussi vite à 70 dollars.
Non, par contre, tout le monde a dit que c'était une mauvaise idée. Exceptions près.
C'est-à-dire que là, le pétrole à 70 dollars au mois de juin, même si le scénario central de la plupart des économistes depuis le début de ce conflit, c'est de dire tout va se calmer à partir du début de l'été, 70 dollars, c'était dans très peu de prévisions. Donc forcément, ça explique ces données d'inflation, au point même que les économistes qui ont tablé des scénarios ont dépassé les objectifs d'inflation. Eux, ils pensaient que l'inflation, notamment en France, serait au-delà des 2%, et finalement, c'était pas le cas. Donc tout le monde a été surpris. Il faut le dire.
Oui, alors ça aussi, c'est un point que je trouve important. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les banques centrales? Alors il faut essayer de se mouiller un petit peu, c'est un peu l'exercice.
On attend Kevin Warsh qui doit parler cet après-midi.
Voilà, donc alors je vais mouiller pour cet après-midi. Donc on va se retrouver, et ça va être un peu dangereux pour les marchés, c'est-à-dire avec des banques centrales qui sont désynchronisées. On a quand même des tensions inflationnistes encore un peu aux États-Unis, donc peut-être ou une réduction du bilan de la Banque centrale américaine qui ferait quand même peser un peu sur l'activité, ouais, quand même, ou des hausses de taux, peut-être. La Banque centrale européenne qui va, je pense, maintenant rester dans sa niche un peu, je pense, quelques temps. Et puis on a en face de ça la Banque centrale japonaise qui est dans un moment assez charnière avec un yen qui est extrêmement bas. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont essayer de jouer au malin, c'est-à-dire pas trop bouger leurs taux. Si les autres montent les taux, ça peut faire un effet de balance qui peut leur suffire pour maintenir leur devise, ce que je crois pas vraiment. Et donc, ils vont être probablement obligés de monter leurs taux et d'avoir une politique un peu restrictive. Peut-être pas tout de suite, mais enfin, en tout cas, ils peuvent pas laisser filer le yen éternellement comme ça. C'est-à-dire que là, on est quand même sur des niveaux de 40 ans, quand même. Donc, cette désynchronisation des banques centrales est un problème pour les marchés.
Robin?
Oui, et avec aussi un sujet qui est la banque centrale chinoise. Vous avez des pressions très très fortes actuellement, notamment européennes, pour demander une réévaluation du yuan. Et c'est loin d'être facile, même si les Chinois le voulaient, c'est loin d'être facile, puisque vu le rythme de création monétaire, la façon dont ils impriment de la monnaie en Chine, c'est la croissance de la masse monétaire, la M2, qui est celle qu'on regarde un peu en Chine, elle est quasiment une fois et demie plus rapide qu'en Europe. Donc ça croît à une vitesse dingue. Et donc normalement, le yuan, si vous créez beaucoup de monnaie, votre monnaie, elle se déprécie. Et donc la Chine va avoir des difficultés à, même si elle voulait renforcer le yuan, elle va avoir du mal à le faire prochainement.
Et il y a des effets pervers à ces hausses de taux. Les informations de la nuit de Reuters évoquent que la BCE envisage de revoir notamment les dépôts. Parce qu'aujourd'hui, quand une banque dépose ses dépôts à la Banque Centrale Européenne, donc maintenant c'est plus 2, mais c'est 2,25, ça coûte de l'argent, environ 50 milliards d'intérêts, sachant qu'il y a plus de 2100 milliards de liquidités sur les comptes de la BCE. Et donc, en fait, face à cette ardoise, dans le sens où ça coûte de l'argent, tous ces dépôts auprès des banques centrales, et bien visiblement, d'après Reuters, l'objectif de la BCE, ce serait que les banques mettent en place moins de dépôts, en tout cas moins de dépôts rémunérés. En tout cas, qu'elles gardent leurs dépôts et qu'elles arrêtent de le déposer auprès de la BCE.
Donc on veut monter les taux, mais pas le taux de dépôt, juste le taux de prêt. Okay.
Ça nous amène aux questions des IPO. On a beaucoup parlé des gros IPO, évidemment SpaceX, et puis les prévisions sur OpenAI. Il y a des gros IPO prévus aussi côté chinois, Étienne.
Oui, avec notamment des volumes qui explosent du côté de Hong Kong, mais également du côté de Shenzhen. Vous avez vu notamment l'indice Chinext. C'est un indice où vous avez beaucoup de valeurs technologiques, beaucoup de petites sociétés, c'est-à-dire qu'en fait, les startups en Chine, elles vont lever des capitaux directement en bourse, pas forcément du côté des fonds de private equity, comme ça peut se faire en Europe, mais aussi aux États-Unis. D'où la performance d'ailleurs de cet indice, qui gagne quasiment 40% depuis le début de l'année, il doit faire x2 en l'espace d'un an. Et puis alors là, vous avez désormais une nouvelle société qui va rentrer en bourse à Hong Kong, ça s'appelle le Luxshare. Ils fabriquent notamment les AirPods pour Apple, ils assemblent des iPhones également du côté de la Chine. Alors à chaque fois, c'est vrai que c'est des montants qui peuvent paraître anémiques, ils vont lever 3 3 milliards de dollars par rapport au montant que l'on voit du côté des États-Unis avec SpaceX, OpenAI, etc.
Vous voulez des trillions, vous, maintenant, ou des trilliards?
Non, mais c'est-à-dire qu'on est sur un marché qui affiche une forte croissance, mais à la fin, avec des levées de capitaux qui peuvent paraître assez faibles. Par exemple, à Hong Kong, l'année dernière, c'était à peine 40 milliards de dollars. Ça peut paraître tout petit, mais c'est des centaines de boîtes qui, ensemble, ont levé 40 milliards de dollars.
Robin?
Oui, c'est un marché très intéressant parce que en Chine, il y a une répression de l'épargne. Donc, en fait, on pousse les épargnants à mettre leur argent dans les banques et les banques les rémunèrent en dessous de l'inflation, donc avec un taux d'intérêt réel négatif, ce qui permet d'allouer cette épargne à l'industrie et aux secteurs économiques, ce qui permet d'avoir un coût du financement très intéressant pour l'économie. Donc, la bourse, l'immobilier a longtemps été une façon de s'extraire de cette rentabilité très faible bancaire. C'est fini désormais, ça c'est assez clair. Et donc, la bourse, très spéculatif, c'est-à-dire que les acheteurs chinois viennent et vont, et donc pour le régulateur d'ailleurs c'est très difficile à gérer parce que c'est un comportement ultra spéculatif avec des gens qui ne gardent pas, qui essayent de venir quand ils sentent le vent tourner. Donc là c'est vrai qu'il y a maintenant depuis 12-15 mois un discours assez positif sur la tech chinoise avec un certain mal, notamment les sociétés d'IA et même d'autres produits de technologie. Donc ça fait cet appel d'air, beaucoup de gens viennent. Il faut voir que il y a deux sujets, je dirais quand même par rapport à ça, c'est que aujourd'hui la rentabilité de ces entreprises est faible. L'entreprise chinoise a par nature une rentabilité faible parce qu'elle vend des produits, elle gagne des parts de marché, et donc c'est des sociétés qui ont des rentabilités nettes vraiment très 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 écrasées. Il y a des boîtes, une boîte d'IA qui est très connue qui s'appelle ZAI, qui était rentrée en bourse en début d'année, qui a fait x15 depuis le début d'année quand même, qui a un modèle qui s'appelle GLM, qui est un modèle vraiment incroyable, qui est vendu un dixième du prix d'Anthropic et qui est un très bon modèle. Bah, ils font un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars, quoi. C'est très 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 petit, et donc ça un peu la limite de cet investissement dans les sociétés chinoises, c'est que à la fin elles sont rattrapées par leur faible rentabilité.
Alain.
Alors bon, moi c'est vraiment pour ça que j'aime pas le marché chinois. C'est un marché administré, sans parler de politique, c'est un marché administré donc qui est problématique pour l'investisseur externe. Alors on peut faire de l'indice et tout, mais si on regarde depuis le début de l'année, ça fait partie des trades qui étaient cités par tout le monde en début d'année. En fait, il fallait mieux faire un trade tout simple, c'était ne pas avoir de Chine et avoir d'autres pays émergents. C'était quand même un trade assez simple qui a parfaitement fonctionné, et aujourd'hui je ne le vois pas faire autrement, donc moi c'est vraiment un marché que j'évite consciencieusement.
Trop compliqué quoi.
Non, c'est pas compliqué, c'est pas rentable.
La question c'est ça, à la fin c'est pas rentable.
C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont pas drivées par la rentabilité pour une raison qui est derrière.
C'est un problème quand même.
Oui et non.
Ça s'appelle des entreprises publiques.
Elles ne sont pas publiques en ce sens-là, mais elles visent l'objectif c'est de gagner des parts de marché, et donc peut-être qu'un jour elles viseront à augmenter la rentabilité.
Mais c'est pas tenable, Robin.
Pardon ?
C'est pas tenable.
Bah si, parce qu'elles font de la rentabilité. Elles font de la rentabilité avec un coût du capital extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Aujourd'hui, elles gagnent des parts de marché sur les marchés mondiaux, quand même. C'est ça un gros sujet. Mais effectivement, d'un point de vue actionnarial, et ça, c'est philosophique. En Chine, pour le coup, ça, c'est le marxisme. On dit souvent la Chine, c'est marxiste. Non, la Chine, c'est ultra concurrentiel et ultra capitaliste sur la concurrence entre les entreprises. Et c'est ultra marxiste sur un segment qui est de dire on ne doit pas s'enrichir par la détention des moyens de production. Et donc, à la fin, ça fait des entreprises qui ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Mais si vous êtes subventionné, de toute façon, le but, c'est juste de...
C'est pas de la subvention.
Vous forcez l'épargne à aller vers les...
C'est du coût du capital plus faible. C'est pas de la subvention, j'insiste sur...
Mais du capital qui arrive parce qu'il est forcé d'arriver là, parce que vous êtes drivé quand même.
Si vous êtes un étranger, que vous allez en Chine, si vous êtes BASF, vous voulez ouvrir une usine en Chine, vous avez le même coût du capital que si vous êtes l'acteur chinois sur place. Donc, c'est pas une distorsion de concurrence.
Mais vous aurez la même rentabilité que localement.
Ah bah oui, vous avez pas de rentabilité.
Le meilleur exemple, c'est BYD. Regardez l'action BYD, elle perd 30% depuis le début de l'année. On pourrait se dire, c'est super, il faut acheter des actions BYD, il y en a partout, ils gagnent des parts de marché, etc. En fait, ils font beaucoup de volume et la rentabilité, elle baisse parce qu'en fait, ils sont dans une guerre des prix. Alors peut-être que sur un horizon 10, 15, 20 ans, ça va être gagnant, dans le sens où peut-être que BYD, un jour, peut-être...
Quand il n'y aura plus de constructeurs européens,
une fois qu'ils auront tué tout le monde, ils vont progresser leur marge. Mais en tout cas, à court terme, c'est très compliqué.
Alors après, il y a eu un thème qui a fonctionné depuis 18 mois, c'est tout ce qui est autour de l'IA et de la chaîne de valeur de l'IA. Et on est passé directement dans une problématique de souveraineté. Donc les Chinois, on peut pas imaginer des Européens qui, pour leur souveraineté, achèteraient des modèles chinois. C'est juste inimaginable. Donc eux, ils ont réussi à passer sur le côté industriel. Donc, cette partie-là du business, de la chaîne de valeur de l'IA, tout ce qui est électrification, etc., eux, ils vont être là. Ils vont faire très mal, d'ailleurs, en termes de coûts par rapport aux autres grands, parce que eux savent faire de l'industriel. Et on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que
en fait, ils vont faire des voitures et des avions.
Et des robots.
Mais pas des modèles.
Et pour les modèles, je pense que ça va être assez compliqué d'utiliser des modèles chinois dans l'industrie ou dans le.
Robin, il utilise des modèles chinois. Oui, je le vois. Et ça marche bien, c'est ça?
Aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts des modèles américains, des modèles frontières américains, beaucoup de stratégies de réduction des coûts qui ont lieu actuellement. Hein. Depuis deux mois, le grand sujet dans les boîtes américaines, c'est de dire la facture que je commence à verser
est, trop forte,
est beaucoup trop importante. Donc, il y a plein de stratégies pour dire, en fait, je confie quelques tâches les plus sophistiquées aux modèles frontières. Et en fait, il y a 98% des tâches qui peuvent être faites par un modèle open source.
Oui, mais si c'est interdit, si Trump il dit vous prenez pas les modèles chinois, point.
Peut-être, mais les Européens, par exemple, les Européens, les restes du monde, la demande, elle n'est pas que drivée par les États-Unis. L'Europe.
On a les mêmes problèmes. Je veux dire, un des vecteurs de développement, c'est la défense. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on utilise les modèles chinois pour de la défense.
Je pense que aujourd'hui, ce qu'on voit, après, les statistiques ne sont pas pures et parfaites parce que tout n'est pas servi sur Open Router. Mais quand on regarde les statistiques d'Open Router, on voit vraiment la montée en puissance des modèles.
C'est quoi, Open Router
pardon, c'est un site qui va agréger toute la consommation de tokens des différents modèles à l'échelle du monde.
C'est bien,
et
ça.
On voit vraiment monter la consommation chinoise de manière massive. Mais le point pour revenir sur la Chine, c'est il y a une concurrence domestique. Pour revenir sur BYD, BYD est rentable hors de Chine. Mais en Chine, il y a une concurrence domestique qui est tellement violente.
Ils sont combien de constructeurs chinois? Ils sont.
Alors, on disait souvent, il y a une centaine de constructeurs chinois. En réalité, le top 10 fait 90% du marché aujourd'hui. Donc.
Mais déjà 10, ouais.
Ouais, mais 10, ils doivent être 5. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont finir à 5. On le sait, il y a une consolidation qui est en cours. Mais cette concurrence avec des prix qui sont vraiment vendus, même quasiment en dessous du prix de revient en Chine, fait que les marges, elles sont écrasées. Et BYD, en plus, se faisait financer par ses fournisseurs. Et Pékin leur a dit, faut arrêter un petit peu de mettre trop de pression sur la chaîne. Donc depuis, ils ont un énorme problème de cash et ils ont dû lever beaucoup de dettes.
Etienne, ouverture des marchés dans 7 minutes, qu'est-ce qu'on regarde?
C'est prudent, hein, bien sûr, en préouverture, avant Kevin Warsh, on en parlait il y a un instant. Il faudra suivre Nike tout à l'heure à Wall Street. Le groupe a publié ses résultats hier. Le directeur financier n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit la consommation, en ce moment, c'est compliqué partout. Alors en Chine, bien sûr, avec des consommateurs chinois en plus qui sont en train de bouder Nike, ils achètent très clairement des marques locales. Les ventes en Europe, elles sont stables, quasi flat. Aux États-Unis, léger mieux. Ils espèrent qu'ils vont faire un bel été avec la Coupe du Monde. Mais en attendant, hier soir, ça n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Le titre était en baisse après la publication de ces chiffres.
Ouverture ensuite dans Good Morning Market, dans un instant avec Étienne Braque. Merci beaucoup, Marie Vaton et Alain Pitous, d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie. Demain, on se retrouve à Aix-en-Provence à partir de 7h30. On se délocalise pour les rencontres économiques. À demain.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
Deuxième partie de Good Morning Market. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. Au cours de cette émission, nous parlerons du second semestre. Première séance de ce second semestre dans deux minutes. Le CAC 40 est d'ailleurs stable en préouverture. Est-ce qu'il est temps un petit peu de revoir un petit peu son allocation, de revoir ses billes après un trimestre record du côté du Nasdaq qui a quand même gagné 20% au deuxième trimestre, meilleur trimestre depuis 2020. Depuis le début de l'année, on a des indices américains Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 qui gagnent entre 9 et 12%. Quand le S&P 500, quand l'Eurostock 50 est à plus 10% et le CAC 40 à seulement plus 3%. Et oui, comme l'année dernière, le CAC 40 est à la traîne, le secteur du luxe continue de plomber la Bourse de Paris. Nous verrons cela dans quelques minutes avec Raphaël Thuin de Tikeo Capital. Ensuite, c'est Damien Cadillon qui nous rejoindra d'Amundi pour parler notamment d'un indice World, du FTSE World, hein, que vous connaissez tous, un petit peu comme le MSCI World. Mais là, la particularité, c'est qu'il est pondéré en fonction du PIB des pays. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne plus de Chine et moins d'États-Unis. Vous savez que le problème de l'indice World, c'est qu'il est très lourd en actions américaines, c'est 70% de sa composition. Et bien là, on a des bonnes surprises avec un peu plus de Chine, un peu plus d'Allemagne également, puisque l'Allemagne est dans le top 5 des pondérations de cet indice. Tous les éléments à partir de 9h15 et puis en dernière partie d'émission, aux alentours de 9h25, nous serons avec Romain Daubry de l'Atelier des Options pour revenir notamment sur les valeurs techniques qu'il faut suivre d'un point de vue technique. En attendant, il est 9h et c'est Loé Audima qui vient de nous rejoindre pour nous apporter toute l'information économique du jour.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, c'est Washington qui réautorise l'IA d'Anthropic. Les restrictions d'exportation sont levées sur Fable 5 et Mythos 5, les deux modèles les plus puissants de l'entreprise, qui en échange s'engage à traiter les risques de sécurité et à travailler avec le gouvernement sur les normes et les sorties de ces futurs modèles, selon l'administration. Anthropic, de son côté, annonce qu'elle rétablira les accès dès aujourd'hui. Dans le secteur, il y a Google qui confirme le lancement en France de sa fonction Overviews cet été, celle qui affiche directement en haut des résultats un résumé généré par l'IA. Un gain de temps considérable pour l'utilisateur qui n'a plus besoin de cliquer sur les liens, ce qui inquiète le secteur des médias, à qui Google a écrit hier pour promettre transparence, contrôle et rémunération. En France, c'est du vert pour le secteur auto qui finit le semestre avec des ventes de voitures neuves en hausse de presque 2%, plus 11% même sur le seul mois de juin. Et c'est là l'électrique qui poursuit son carton. Le segment pèse maintenant 28% du marché, 11 points de plus qu'il y a un an selon la PFA. Et puis la facture est gelée pour les allocations chômage. Elles ne seront pas revalorisées aujourd'hui, le 1er juillet, pour la première fois en 10 ans, faute d'accord entre partenaires sociaux qui gèrent l'UNEDIC. Les syndicats demandaient une indexation sur l'inflation. Le patronat a estimé que l'état des finances publiques ne le permettait pas.
Merci beaucoup Léo. Dans un instant, tous les éléments sur la séance. Juste avant, un petit mot des experts avec Raphaël Lejeune que vous retrouvez à 9h30.
Oui Étienne, bonjour. On va parler réforme de la France aujourd'hui après la grande interview d'Edouard Philippe dans les Échos ce matin. Il dit que la réforme des retraites doit être la mère de toutes les batailles. On va voir ce qu'en pensent mes invités du jour. On viendra aussi sur la note de l'OCDE sur la France. Dette, la France peut-elle éviter le remède de cheval proposé par l'organisation internationale. On viendra également sur cette étude du CAE qui propose de revoir de fond en comble les règles du jeu démocratique. Ça s'annonce absolument passionnant avec l'un de ses co-auteurs, Vincent Ponce, qui sera en plateau. Et puis enfin, acier. L'Europe doit-elle fermer ses frontières alors qu'elle prévoit de réduire de presque moitié ses quotas d'acier importés et de doubler les droits de douane? Voilà pour le programme, avec autour de la table Guillaume Dard, président de Montpensier à Brevel, Vincent Ponce, je vous le disais, professeur d'économie à Harvard et membre du Conseil d'analyse économique, et Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. À tout à l'heure.
Voilà pour les experts. 9h30, 10h30. En attendant, il est 9h02 et le CAC 40 est en baisse ce matin à l'ouverture de 0,3% à 8377 points. Ouverture prudente également pour l'Eurostock 50 qui cède 0,2%. Renault est ce matin la plus forte hausse du CAC 40, plus 2,5% au-delà des 25 euros. Stellantis, un peu plus d'1% de progression également. Après donc les immatriculations en France en ce qui concerne le mois de juin. Schneider Electric, qui était en hausse de plus de 2% hier, perd 2%. Retour à la case départ en quelque sorte à 278,80 €, avec donc hier le groupe qui s'était distingué à la hausse après avoir annoncé l'achat de la société Cognite pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui va un peu plus digitaliser l'industrie, notamment en ce qui concerne les réseaux électriques. Nous reviendrons sur ce dossier Schneider Electric avec Romain Daubry d'un point de vue technique, sachant que cette valeur n'est plus très loin de ses records historiques. Le pétrole est toujours sur ses plus bas de début mars, 73 $ pour le Brent, 69 $ pour le baril de WTI. Et puis sur le front des taux, notamment sur les 10 ans, on est toujours sous les 3% bien sûr pour le Bund à 2,89 quand le 10 ans français est à 3,58. Le 10 ans américain de son côté se stabilise à 4,47 avant donc la très attendue prise de parole tout à l'heure de Kevin Warch depuis le symposium de Sintra au Portugal. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec Raphaël Thuin de Tikeo Capital pour parler de ce second semestre qui s'ouvre aujourd'hui sur les marchés. Regardez un petit peu dans le rétroviseur avec donc, on le disait en préambule, un trimestre historique pour le Nasdaq qui a quand même gagné plus de 20% au deuxième trimestre, meilleur trimestre depuis 2020 et la pandémie de Covid. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles, sachant que le CAC 40 est encore et toujours à la traîne et que le marché continue de se concentrer sur les valeurs liées aux semi-conducteurs, puisque regardez les GAFAM, Microsoft est en très forte baisse depuis le début de l'année. Idem notamment pour certaines sept magnifiques qui n'arrivent pas aujourd'hui à rassurer le marché en ce qui concerne l'intelligence artificielle.
Good Morning Market sur BFM Business. BFM Business présente Good Morning Market, Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market. Et donc le CAC 40 qui est en très légère baisse ce matin de moins 0,3%. Idem du côté des futurs américains avec un Nasdaq 100 qui recule de 0,6%, moins 0,5% pour le S&P 500. Et donc le secteur automobile qui se distingue ce matin après les immatriculations en France avec Renault ou encore Stellantis en tête du CAC 40. Focus ce matin sur le marché des ETF avec Damien Cadillon qui est responsable de la distribution ETF France d'Amundi. Bonjour Damien, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, on va parler d'un indice world qui est assez original, qui est pondéré par rapport au PIB mondial de chaque pays. Juste avant, un petit mot quand même de flux, de ce qui se passe un petit peu, des grandes tendances sur ce marché de la gestion passive avec encore une dynamique record au mois de juin pour l'ensemble de l'écosystème.
Oui, on m'a plusieurs fois demandé de ne pas utiliser le mot record quand je parle d'ETF, mais c'est de plus en plus difficile parce que oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on atteint des nouveaux records. Donc cette année, pour prendre un peu de recul, juste pour donner une image sur l'année, on est à 218 milliards d'euros de collecte. Mois de janvier record, mois de février record, mois de mars, coup d'arrêt avec le déclenchement de la guerre en Iran, mais c'est reparti dès avril, mai, et sur juin, on flirte avec les 40 milliards de collectes sur le mois de juin. Donc là encore des niveaux, non pas records, mais très élevés. Mais quand on regarde en termes de granularité sur les expositions géographiques notamment, on voit que c'est principalement des expositions globales qui collectent du world et de ce qu'on appelle de l'aqui, donc du world développé plus émergent. On est autour de 17 milliards sur 30 milliards sur les actions, donc c'est quand même très conséquent. Et ça, on s'habitue de plus en plus à voir des expositions globales prendre le haut du classement, parce qu'en fait, on a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui utilisent des versements programmés tous les mois. Donc tous les mois, ils versent un même montant sur ces expositions qui sont très diversifié, très général, on vise toutes les valeurs dans le monde.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, au mois de juin, les indices européens ont surperformé les indices américains. Le Nasdaq a perdu pas loin de 3-4% de mémoire sur l'ensemble du mois de juin. Mais ce ne sont pas les indices européens qui ont performé, qui ont le plus collecté.
Non,
il y a une dichotomie entre les deux. C'est pas parallèle.
Effectivement, ça se reflète pas. Des marchés ETF un peu contrariants là-dessus. Oui. Donc au-delà des expositions globales, si on regarde en dessous, effectivement, ce qui collecte le plus et de loin, c'est les États-Unis, 11 milliards de collectes. Ensuite, on collecte un peu sur le Japon et les émergents. En revanche, l'Europe, c'est des sorties très significatives. On est à moins 1,8 milliards sur le mois de juin.
Et en termes de secteur, bon, là aussi, c'est encore la tech qui domine.
En termes de secteur, c'est effectivement la tech qui domine. Depuis le cessez-le-feu, les bancaires reviennent un peu.
Ouais.
Mais effectivement, tech, robots, intelligence artificielle, semi-conducteurs, c'est ce qui domine. Et en revanche, en sortie, toujours depuis le cessez-le-feu, on voit des sorties sur la partie énergie et sur la partie légèrement défense.
Puis la santé également, qui tente un rebond. On en reparlera dans un instant avec Raphaël Thuin de Tikeo Capital. La santé qui tente de se reprendre depuis quelques semaines de cela. Focus donc comme premier sur le Amundi FTSE All World GPD. C'est un indice, donc comme son nom l'indique, qui est mondial, un petit peu comme l'indice World Classic. Mais là, par contre, vous avez regardé un petit peu la composante du PIB mondial et puis surtout la pondération de chaque pays, sachant que l'indice basique de base, lui, se base sur les capitalisations boursières. Donc, il y a une grande distinction à la fin.
Tout à fait. Les indices globaux sont effectivement pondérés par les capitalisations boursières, ce qui crée des biais très importants en faveur des États-Unis. Il faut avoir en tête que quand on achète un indice World, on a 72% d'États-Unis. Quand on achète un indice world développé plus émergent, on a toujours 60% d'actions américaines. Donc on voit quand même des investisseurs qui veulent toujours s'exposer à un maximum de diversification, qui en faisant ça prennent en fait un biais très fort sur les US. Donc il y avait deux façons d'aborder le sujet, soit de faire du world ex-US, mais bon, effectivement, est-ce que exclure les US, c'est la solution, soit, effectivement, trouver une autre façon de pondérer les pays, une des solutions, c'est de les pondérer par le PIB, donc le GDP en anglais, du nom de l'indice. Et là, en fait, on s'aperçoit que ça fait des écarts de pondération très importants. Donc, les États-Unis, dans un développé plus émergent, passent de 60 à 30%. Et les émergents, eux, sont multipliés par 4, passent de 10 à 40%. avec un poids de la Chine qui monte quasiment à 20%. Et l'Europe, lui, est aussi un peu repondérée en atteignant 20% à la fin.
Ce qui fait que, très concrètement, dans le top 10 de ce tracker, bah, il y a beaucoup moins d'actions américaines, hein, de facto. Alors certes, Nvidia est toujours là, hein, puisque c'est toujours aujourd'hui de loin la première capitalisation boursière mondiale, mais elle se fait challenger par Tencent, elle se fait challenger par Alibaba, par Samsung ou encore SK Hynix.
Exactement. En fait, dans un acquis donc développé plus émergent, on a essentiellement des valeurs américaines, hein, ce que vous disiez. Là, on les a toujours dans le top 10, mais divisé par deux. Donc Nvidia n'est plus à 4%, mais à 2. Et on a des nouveaux entrants, ceux que vous avez cités, qui sont effectivement dans le top 10 de cet indice, du fait de la relution du poids de la Chine notamment.
Et puis l'Europe, qui prend également une place plus importante. Hein, typiquement, l'Allemagne, en termes de répartition par pays, devient le troisième pays, alors que dans un indice mondial, l'Allemagne est totalement effacée.
Complètement, oui. L'Allemagne remonte, la France est huitième. Donc l'Europe, effectivement, est mieux représentée aussi dans ce type d'indice.
Alors ce n'est pas éligible au PEA, mais par contre, ça peut se jouer dans le cadre d'une assurance vie ou dans le cadre d'un compte de titre. L'objectif, bien sûr, c'est de jouer un petit peu plus la diversification, tout en ayant conscience, bien sûr, bah, que du coup, on est moins exposé à l'attaque américaine. Mais ça peut être l'objectif également de ce produit.
Oui, oui, bah, c'est vraiment l'idée de diversifier ses risques au maximum et pas avoir une part très importante sur la tech américaine. Si on veut remettre un peu de poids sur la tech américaine, il y a des ETF qui font ça très bien aussi. On peut être plus tactique, du coup, avoir ce type d'indice pondéré par les PIB en fonds de portefeuille et après être plus tactique avec des ETF qui ont un biais plus marqué.
Merci beaucoup Damien Cadillon de nous avoir accompagné ce matin. Vous êtes responsable de la distribution ETF France chez Amundi afin de faire un point sur les flux notamment du mois de juin et donc sur cet indice mondial qui regarde non pas les capitalisations boursières mais le poids de chaque pays dans le PIB mondial. Merci. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler d'allocation avec Raphaël Thur.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Sur toutes les box internet, chez SFR sur le canal 31. Chez Orange sur le canal 232. Chez Bouygues Télécom sur le canal 242. Chez Free sur le canal 161. Et chez Canal en 172. Toutes vos émissions sont à voir sur RMC BFM Play et sur toutes les plateformes de streaming. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. Retrouvez toute l'actualité au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première sur l'écho.
Raphaël Thuin vient de nous rejoindre en plateau, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonjour Raphaël, avec vous on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines et puis surtout envisager la deuxième partie de l'année. Trimestre exceptionnel pour le Nasdaq hein, qui a connu une hausse quasi ininterrompue entre fin mars et début juin. Bon, depuis début juin il y a une petite pause mais on voit quand même là sur les deux dernières séances que l'indice a repris plus de 3%. Et puis dans le même temps, l'Europe qui a été à nouveau jouée mais d'une façon assez timide.
Oui, effectivement, on a vu des fracturations finalement dans le marché assez remarquables. Quand on regarde dans le rétroviseur un petit peu sur le premier semestre, on a eu deux forces qui sont un petit peu opposées. Une force négative d'une part avec la géopolitique, l'énergie, l'inflation, les taux d'intérêt qui sont remontés. Ça a pesé sur les performances. Mais face à ça, on a la santé des entreprises, la bonne saison de résultats, en particulier au premier trimestre, la tendance IA qui se confirme. Et finalement, ce sont ces deux forces qui ont un petit peu fait naviguer le marché à la baisse très significativement en mars, évidemment, et puis sur ce deuxième trimestre dans un rebond qui est historique. Donc effectivement, ça a été un trimestre et un semestre très volatile. Aujourd'hui, on va bien regarder, évidemment, devant nous ce qui va se passer sur la tech, sur l'IA, ce leadership de la tech, on est en train un petit peu de se poser des questions aujourd'hui. On voit une forme de fragmentation entre, d'une part, les vendeurs de pelles qui, effectivement, ont eu des performances étonnantes. Quand vous regardez l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, c'est 100% de performance.
Le fameux SOX.
Le fameux SOX, avec en particulier une performance qui a été très tirée au deuxième trimestre. Et puis, à l'inverse, si vous regardez les hyperscalers, vous savez, ces grosses tech qui dépensent énormément, elles ont beaucoup moins bien performé. Les Max Seven, je crois, sont à peine positives sur l'année. Donc, on voit une forme de fracturation de ce discours-là. Et la question qui va se poser pour les investisseurs tech au deuxième semestre, c'est dans quelle mesure on pourrait avoir un rééquilibrage des performances entre les vendeurs de pelles d'une part et ceux qui font ces dépenses d'investissement d'autre part.
Très concrètement, Microsoft est à moins 20% depuis le début de l'année, plus bas de 2023. Meta, la maison mère notamment de Facebook, perd 13% depuis le début de l'année. Nvidia et Apple sont à plus 6, c'est-à-dire en dessous des indices américains, quand Alphabet est à plus 12. Donc très concrètement, ce ne sont pas ces GAFAM, ces Magnificent Seven qui ont tiré la cote. C'est quand même particulier, sachant qu'elles sont, on a parlé il y a un instant avec les équipes d'Amundi, elles sont très présentes dans les indices, notamment et dans les ETF.
Oui, tout à fait. Elles n'ont pas tiré la cote. Alors la question qui va se poser pour nous, c'est dans quelle mesure cette extension entre les vendeurs de pelles et les GAFAM peut vraiment perdurer. Là, on est sur des différentiels de valorisation qui sont étonnantes. Nvidia, par exemple, s'échange au plus bas niveau depuis quasiment 10 ans en termes de multiples de valorisation. Donc, ça attire l'œil. Globalement, ce qu'on peut dire sur le premier semestre, c'est que les investisseurs ont suivi les cash flows. À savoir qu'ils sont allés vers là où les dépenses d'investissement se dirigeaient, au détriment de ceux qui les faisaient, ces dépenses d'investissement, à savoir les hyperscalers. À ce niveau, aujourd'hui, on sent une forme de consolidation et c'est vrai qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour voir les hyperscalers peut-être reprendre de la performance, peut-être une simple inflexion de discours, par exemple lors du second trimestre d'annonce de résultats, où on pourrait peut-être enfin ouvrir la porte à moins de dépenses, une forme de consolidation, peut-être un retour vers un peu plus de cash flow pour ces entreprises, à des niveaux d'étirement de valorisation aujourd'hui tels. On peut tout à fait imaginer que ce soit le cas sur le second trimestre. Donc, on n'abandonne pas complètement les hyperscalers pour le second semestre.
Et puis, bien sûr, il y aura l'IPO probable d'Anthropic et puis également de OpenAI. Là aussi, ce sont des moments très attendus. Et d'ailleurs, c'est ce qui pèse en partie sur Microsoft, qui détient une partie dans OpenAI, dans ChatGPT. Bon, l'Europe, au milieu de tout cela, a été un petit peu délaissée pendant le conflit. Et puis là aussi, elle s'est bien reprise. Néanmoins, quand je regarde le CAC 40 depuis le début de l'année, alors certes, il faut prendre en compte les dividendes, mais hors dividendes, on est à seulement plus 3. Donc, comme l'an dernier, Paris n'est pas le bon élève.
Pas le bon élève. Alors, c'est vrai qu'il y a une déception sur l'Europe au premier semestre. Souvenez-vous, début d'année, c'était un petit peu le positionnement consensuel. On aimait bien l'Europe, elle était moins chère. On trouvait que dans une année de stimulus fiscal en Allemagne, c'était attractif de mettre des industriels du cycle dans le portefeuille. Et c'est vrai que l'indice européen est plus cyclique que l'indice américain. Il y avait beaucoup de raisons de penser que finalement, l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu cette année, en termes de performance. Et puis, patatras, on a eu l'Iran, la remontée des prix du baril. Tout ça a effectivement affecté les indices européens très fortement. La question qui se pose aujourd'hui dans un scénario de désescalade en Iran, c'est est-ce que les fondamentaux du buy European, les fondamentaux d'une surperformance éventuelle des indices européens sont en place? Il y a un vrai débat qui se pose aujourd'hui. Le questionnement autour de l'impact des prix du baril du premier semestre sur la durée, sur l'économie européenne, un questionnement autour de la Banque Centrale Européenne et un potentiel continuation de hausse de taux. D'un autre point de vue chez Tikeo, on aime bien cette position Europe, on trouve qu'elle est attractive, les entreprises européennes génèrent du résultat, on aura une croissance à deux chiffres probablement des bénéfices cette année pour les entreprises européennes. Le stimulus fiscal allemand qui a mis du retard à être déployé va probablement commencer à faire effet au second semestre. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, encore une fois, les valorisations, c'est pas anodin. Elles sont revenues à des niveaux proches des moyennes historiques. Elles sont beaucoup moins exigeantes. Ça permet de diversifier aussi de la thématique tech. Bref, avoir de l'Europe aujourd'hui en portefeuille, ça fait sens.
L'Eurostoxx gagne 8% depuis le début de l'année. C'est quand même nettement mieux que le CAC 40. L'Eurostoxx qui peut dire merci à ASML qui gagne quand même 70% depuis le 1er janvier. Bon, vous voyez que même dans l'Eurostoxx,
il y a de la tech, il y a des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui on a envie de remodeler un petit peu son portefeuille, après vous l'avez dit, le x2 sur l'indice SOX, quels sont les secteurs qui peuvent aujourd'hui être intéressants? C'est vrai qu'au mois de juin, c'était un petit peu le retour de la santé, le retour des secteurs bancaires. C'est des secteurs qui, alors pour la banque, ont été stars l'an passé, et puis pour la santé, qui ont été délaissés.
Oui, effectivement. Ce qu'on constate depuis quelques semaines, on va voir si c'est une thématique qui peut perdurer, c'est l'élargissement du leadership. On a aujourd'hui d'autres secteurs, d'autres valeurs qui prennent le relais de la performance au-delà de la tech, au-delà de les US. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe déjà, donc on va voir. Mais nous, on a envie d'imaginer que ça puisse continuer. Ça, c'est une première chose. En termes de secteur, qu'est-ce qui attire l'œil? Effectivement, les défensives ont beaucoup sous-performé. Vous citiez la santé, c'est un bon exemple. En termes de multiples de valorisation, on est très très bas aujourd'hui sur les secteurs de la santé.
Malheureusement, c'est pas nouveau. Cet argument n'a pas fonctionné ces dernières semaines. Est-ce que là, ça peut enfin être le moment?
Écoutez, en tout cas, ça permet d'avoir une forme de matelas de sécurité, de filet de sécurité sous soi en termes d'exigence de valorisation. On aime bien la défense aussi. La défense, elle a beaucoup sous-performé cette année en Europe. Il y avait une forme de consolidation après 3 ans de surperformance rocambolesque, 230% de performance pour la défense européenne sur 3 ans. Et aujourd'hui, les valorisations aussi ont baissé. On n'a pas le sentiment que la dynamique fondamentale de ces entreprises de défense est beaucoup infléchie, voire même on peut voir une forme d'accélération sur certaines d'entre elles. Donc la défense, on aime bien. Et puis effectivement, remettre des industriels, du cycle, y compris d'ailleurs les industriels exposés à l'IA. Vous savez, celles qui sont dans cette vague data center qui est en train d'arriver en Europe. Il y en a en Europe qui sont très bien exposés. On va penser à Schneider, à Air Liquide, à Legrand, dans les thématiques d'électrification, de refroidissement des centres de données. Tout ça, ça permet d'avoir plus de cycles dans le portefeuille et c'est peut-être un bon moment pour se faire.
La partie Asie, pour terminer, là aussi on est sur des performances qui sont très disparates. On en parlait en première partie d'émission avec des grandes valeurs tech chinoises qui n'ont pas du tout profité de l'envolée des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Quand vous regardez les Tencent, les Alibaba, etc. Puis à l'inverse, les petites boîtes chinoises où là ça explose considérablement. Retard également encore sur l'Inde, qui est encore particulièrement boudée. Et puis alors bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais du côté de Séoul, bien sûr, on a le Kospi qui a fait x2.
Oui, effectivement, très disparate côté Asie. La Chine sous-performe maintenant de manière significative. La consolidation qu'on voit sur les grosses tech US, on la voit aussi en Chine. Alibaba est en baisse de 30%, il me semble. Donc ça a été un premier facteur négatif sur la Chine. Deuxième facteur négatif, toujours le même, la consommation, la demande intérieure, elle est moribonde et globalement, ça a handicapé aussi beaucoup l'indice chinois. Donc là, attention. En revanche, sur les autres indices, on va dire d'Extrême-Orient, que sont la Corée ou le Japon aussi, qui a fait plus de 40% de performance, là, effectivement, on voit un momentum très fort. Il est très centré autour de la tech, en particulier, vous l'avez dit, pour la Corée. Donc là, il y a des niveaux de concentration de performance qui interpellent. Là où le Japon, globalement, a davantage à faire valoir en termes économiques, en termes d'exportation avec un yen très faible. Donc là aussi, on s'attend à beaucoup de dispersion sur l'Asie au second semestre.
Merci beaucoup, Raphaël. Tu vas nous accompagner ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. 9h24, le CAC 40 est en très légère baisse avant la prise de parole de Kevin Warch. -0,4% sous les 8400 points, 8365 points, -0,4% également pour l'Eurostoxx 50. Avec nous ce matin depuis l'atelier des options, Romain Daubry. Bonjour Romain. Bon, quoi de neuf là sur le marché pour cette nouvelle séance du semestre, du mois, du trimestre? On est reparti pour un tour.
Bonjour Étienne. Ouais, effectivement, il faut regarder ça comme une page vierge. On a déjà clôturé, il faut le dire, le trimestre sur les marchés dérivés. Et depuis, on n'a pas eu beaucoup de création d'intérêt. Alors, on voit de la volatilité sur les indices. Ce qui est intéressant de noter, c'est cette situation un peu paradoxale entre les indices américains et les indices européens, en tout cas à court terme. Ce qu'on constate, c'est que sur l'indice S&P, les deux dernières séances de progression sur l'indice n'ont pas vu la création d'intérêt sur les futurs. C'est-à-dire qu'on est monté sur l'indice, mais le nombre de contrats futurs a diminué. Ça, c'est un signe d'absence d'intérêt et on le voit... On l'a constaté il y a quelques jours maintenant, notamment sur la tech américaine. On a vu des dégagements depuis une dizaine de jours. On est en consolidation depuis la fin du mois de mai sur le Nasdaq, sur le S&P aussi. Donc ce mouvement, il ressemble un peu à un mouvement de fin de trimestre où on a fait des arbitrages. On est revenu proche des sommets, mais sans soutien. Donc ça laisse entendre d'une part qu'on pourrait avoir des replis à nouveau et qu'on poursuive cette phase de consolidation sur la tech américaine notamment. On le voit d'ailleurs sur les futures ce matin, ça rebaisse déjà un peu. Et puis on a cette situation un petit peu paradoxale par rapport à celle-ci en Europe ou sur l'indice Eurostoxx. Hier, on a progressé assez nettement et le nombre de contrats futurs a cette fois-ci, lui aussi, progressé. Alors moi qui m'inquiétais d'un mouvement de retracement sur l'indice Eurostoxx, pour cette fin de trimestre, on a vu le nombre de contrats futurs augmenter de 5%, c'est beaucoup. Alors est-ce que c'est un regain d'intérêt? Il va falloir le confirmer à court terme et aller déborder ce niveau de 6330, mais on a déjà comblé le gap qu'on avait laissé ouvert en fin de semaine dernière sur l'indice Eurostoxx à 6280 points. On est toujours au-dessus. Et puis le niveau d'alerte sur l'Eurostoxx, c'est 6202 points. Donc est-ce qu'on déborde 6335, on repart à la hausse et dans ces cas-là, on peut envisager des extensions et la poursuite du mouvement haussier? Est-ce que c'était un feu de paille et au contraire, on rompt le niveau de 6200 points et dans ces cas-là, on a des risques de consolidation un peu marqués? Il faut rappeler que cette hausse, et vous le faisiez d'ailleurs, était quand même très concentrée sur la tech, très concentrée sur ASML et un peu sur le secteur bancaire aussi. Il faut que d'autres secteurs prennent le relais. Pour l'instant, c'est pas très décidé, c'est pas très marqué. Donc, on ouvre effectivement une page vierge de ce côté-là. Donc, des risques de consolidation complémentaires sur les indices américains et un point d'interrogation sur les indices européens qui sont enfin, sur l'indice Eurostoxx, puisque le CAC 40 est quand même en pause depuis plusieurs semaines maintenant, même si c'est du léger mieux.
Il nous reste 30 secondes à peine, Romain Daubry. Peut-être un petit mot de Schneider Electric qui repère 2,5% hier, c'est-à-dire quasiment sa hausse gagnée avec notamment une acquisition dans le secteur de l'intelligence artificielle hier, Cognite.
Oui, effectivement. Alors Schneider, c'est un titre qui est un peu en tout proche de ses sommets, qui manque un peu de momentum à mon sens depuis quelques séances maintenant. On a débordé ce niveau de résistance à 275. Tant qu'on est au-dessus, on peut aller chercher des extensions en direction de 296 et pourquoi pas 317. Maintenant, pour moi, il y a un petit risque de consolidation sur Schneider aussi. Sous 275, on pourrait revenir à des niveaux de support en direction de 254. Encore une fois, ça manque un petit peu de momentum à court terme. Il y a pas mal de volatilité contre ce niveau de résistance.
278,40 à l'instant pour ce titre Schneider Electric, qui est la plus forte baisse du CAC 40. Merci beaucoup Romain Daubry de nous avoir accompagné ce matin pour faire un point d'un point de vue technique sur la séance en cours. Séance bien sûr que vous suivez avec Antoine Larrigaudry à 11h dans Tout pour investir et l'ouverture de Wall Street avec Guillaume Sommerer tout à l'heure à 15h30. En attendant, il est 9h28 et dans une poignée de secondes, vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.